Le livre de Daniel, numéro 110. La triple alliance de Rome. Dévoilement de la signification prophétique des trompettes dans l'Apocalypse.
L'islam des premiers et deuxièmes malheurs d'Apocalypse 9 représentait le jugement infligé à Rome. William Miller avait appelé les trompettes les jugements particuliers qui furent infligés à Rome. Mais Miller ne pouvait pas voir la Rome moderne comme la triple alliance qui conduit le monde à Armageddon. Uriah Smith reconnaissait que les trompettes représentaient le jugement de Dieu sur Rome et que les cinquième et sixième trompettes, les premiers et deuxièmes malheurs, étaient des jugements contre l'Église catholique.
Pour l'exposé de cette trompette, nous puiserons de nouveau dans les écrits de M. Keith. Cet écrivain dit à juste titre « On ne trouve guère parmi les interprètes un accord aussi uniforme concernant une autre partie de l'Apocalypse que s'agissant de l'application des cinquième et sixième trompettes ou des premiers et deuxièmes malheurs. Aux Sarrasins et aux Turcs. C'est si évident qu'il est difficile de s'y méprendre. Au lieu d'un ou deux versets pour désigner chacune, c'est la totalité du 9e chapitre de l'Apocalypse, en parts égales, qui est consacrée à la description des deux. L'Empire romain déclina, comme il s'était élevé, par la conquête. Mais Sarrasins et les Turcs furent les instruments par lesquels une fausse religion devint le fléau d'une église apostate. Et, par conséquent, au lieu que la cinquième et la sixième trompette, comme les précédentes, soient désignées par ce nom seul, on les appelle des malheurs. Uriah Smith, Daniel and Revelation, 495.
Ce que Miller et Smith n'ont pas reconnu au sujet des trompettes comme jugement de Dieu sur Rome, c'est que ces jugements furent provoqués par l'imposition du culte du soleil. En l'an 331, Constantin promulgua la première loi du dimanche, et 9 ans plus tard, il transféra capitale de Rome à Constantinople, initiant ainsi le processus de désintégration de l'Empire romain. Dans le chapitre 11 du livre de Daniel, la Rome païenne devait régner sans partage pendant un temps, ce qui représentait 360 ans, depuis la bataille d'Actenum en l'an 31 avec Jésus-Christ jusqu'à l'an 330, lorsque Constantin divisa le royaume entre l'Occident et l'Orient.
Il entrera paisiblement, même dans les lieux les plus riches de la province. Et il fera ce que ses pères n'ont pas fait, ni les pères de ses pères. Il distribuera parmi eux le butin, les dépouilles et les richesses. Oui, et il formera des projets contre les places fortes, et cela pour un temps. Daniel 11, 24.
Pendant ces 360 ans, l'Empire romain fut pour l'essentiel invincible. Mais une fois la capitale déplacée vers l'Est, il ne fut plus possible de gouverner un empire aussi vaste. Constantin tenta de maintenir le contrôle en divisant le royaume entre ses 3 fils, mais cela ne fit que hâter l'effondrement de l'ancien empire. Lorsque la papauté s'empara du trône de la terre en an 538, une loi dominicale fut adoptée au 3e concile d'Orléans. Ainsi, en l'an 606, Mohammed commença son ministère prophétique et symbolisa la trompette qui devait être ce que les historiens désignent comme un « fléau d'une église apostate ». L'histoire du premier et du deuxième malheur qui commença avec le ministère de Mohammed en an 606, prit fin le 22 octobre 1844, lorsque la 7e trompette retentit.
Le second malheur est passé, et voici, le 3e malheur vient bientôt. Et le 7e ange sonna, et il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient « Les royaumes de ce monde sont devenus ceux de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11, 14, 15.
Au cours de l'histoire des deux premiers malheurs, Constantinople, la capitale de la Rome d'Orient, fut conquise en 1853, et la Rome papale en Occident reçut sa blessure mortelle en 1748. Le fléau d'une église apostate avait terrassé à la fois la Rome civile et la Rome religieuse. La triple union de la Rome moderne s'accomplit avec l'imminente loi du dimanche aux États-Unis.
Les protestants des États-Unis seront un massacre et les premiers à tendre la main par-delà le gouffre pour saisir la main du spiritisme. Ils franchiront l'abîme pour serrer la main de la puissance romaine et, sous l'influence de cette triple union, ce pays marchera sur les traces de Rome en foulant aux pieds les droits de la conscience. La grande controverse, 558.
À ce moment-là, l'islam du troisième malheur accomplira le jugement de Dieu contre la Rome moderne pour son imposition de l'observance du dimanche, comme il l'a fait avec la Rome païenne et la Rome papale. Avec la Rome païenne, il employa les 4 premières trompettes pour mettre fin à la domination romaine dans la capitale de l'Occident romain, en l'an 496, car après l'an 496, aucun dirigeant de la ville n'était d'origine romaine. En 1453, la 5e trompette de l'islam mit fin à la domination romaine sur la Rome d'Orient. En 1998, la domination papale sur l'ancienne division en 10 des nations d'Europe prit fin, dans l'histoire de la sixième trompette de l'islam. La disparition du royaume civil de Rome, tant occidental qu'oriental, ainsi que du royaume religieux de Rome, est survenue à la suite de l'imposition du culte païen du soleil.
Le peuple des États-Unis a été un peuple favorisé. Mais lorsqu'il restreindra la liberté religieuse, abandonnera le protestantisme et donnera son appui au papisme, la mesure de sa culpabilité sera comble et l'apostasie nationale sera enregistrée dans les livres du ciel. Le résultat de cette apostasie sera la ruine nationale. Review and Herald, 2 mai 1893.
La triple application de la prophétie détermine le caractère de l'accomplissement final de la prophétie à partir des caractéristiques des deux premiers accomplissements. Le 11 septembre 2001, le troisième malheur est arrivé dans l'histoire. Il était initialement arrivé le 22 octobre 1844, car le troisième malheur est la septième trompette, et cette trompette a commencé à sonner à ce moment-là. Mais, comme pour l'ancien Israël, l'Israël moderne a choisi la rébellion et a entraîné une période d'errance dans le désert au lieu d'achever l'œuvre. Le temps du scellement du troisième ange a donc été retardé, jusqu'à ce qu'il reprenne le 11 septembre 2001.
Pendant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont empêché l'Israël ancien d'entrer dans le pays de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans le canon céleste. Dans aucun des deux cas, les promesses de Dieu n'étaient en cause. Ce sont l'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration et les querelles au sein du peuple qui se réclament du Seigneur qui nous ont maintenus dans ce monde de péché et de douleur pendant tant d'années. Message choisi, livre 2, 69.
Dieu ne change pas, et il juge selon la lumière dont on dispose. Israël moderne disposait de plus de lumière qu'Israël ancien, et il nous est dit que les mêmes péchés ont retardé l'entrée d'Israël moderne dans le Canaan céleste. Si Israël moderne n'avait été tenu pour responsable que de la lumière à laquelle Israël ancien était tenu, cela aurait suffi, mais il avait davantage de lumière. Par conséquent, si ce furent les mêmes péchés qui amenèrent Israël ancien à errer dans le désert pendant 40 ans, alors non seulement Israël moderne fut banni au désert lors de la rébellion de 1863, mais il était tout aussi certainement destiné à y mourir. Leurs péchés ont retardé l'œuvre du troisième ange jusqu'à présent.
L'ange dit, le troisième ange les lit, ou les scelle, en gerbe pour le grenier céleste. Ce petit groupe avait l'air marqué par les soucis, comme s'ils avaient traversé de rudes épreuves et de durs conflits. Et il semblait que le soleil venait de se lever derrière un nuage et brillait sur leurs visages, les faisant paraître triomphants, comme si leur victoire était presque gagnée. Premiers écrits, 88.
Les mêmes péchés qui ont banni l'Israël ancien au désert pour y mourir ont retardé l'œuvre du troisième ange, qui est arrivé le 22 octobre 1844.
Après que Jésus eut ouvert la porte du lieu très saint, la lumière du sabbat fut discernée. Et le peuple de Dieu fut mis à l'épreuve, comme les enfants d'Israël l'avaient été jadis, pour voir s'ils garderaient la loi de Dieu. Je vis le troisième ange pointant vers le haut, montrant au-dessus le chemin vers le lieu très saint du sanctuaire céleste. Alors qu'ils entrent par la foi dans le lieu très saint, ils trouvent Jésus, et l'espérance et la joie jaillissent de nouveau. Je les vis regarder en arrière et passer en revue le passé, depuis la proclamation du second avènement de Jésus en suivant leur expérience jusqu'au passage du temps en 1844. Ils voient leur déception s'expliquer, et la joie et l'assurance les animent de nouveau. Le troisième ange a illuminé le passé, le présent et l'avenir, et ils savent que Dieu les a réellement conduits par sa mystérieuse providence. Premiers écrits, 244.
Le troisième ange est l'ange du scellement. Et il est arrivé le 22 octobre 1844, mais son œuvre a été retardée par les mêmes péchés qui ont fait mourir l'ancien Israël dans le désert. Le retard causé par la rébellion de 1863 constituait un retard de l'œuvre du troisième ange et, par conséquent, le scellement a été entravé et retardé pendant plus de 100 ans.
Nombrés 32:6, Kindaigne et Joseph citèrent le Seigneur Dieu est un Dieu jaloux. Néanmoins, il use d'une grande patience à l'égard des péchés et des transgressions de son peuple dans cette génération. Si le peuple de Dieu avait marché selon ses conseils, l'œuvre de Dieu aurait avancé, les messages de la vérité auraient été portés à tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Si le peuple de Dieu avait cru en lui et mis sa parole en pratique, s'il avait gardé ses commandements, l'ange ne serait pas venu, volant à travers le ciel avec le message aux quatre anges qui devaient lâcher les vents pour qu'ils soufflent sur la terre, en criant « Retenez, retenez les quatre vents, qu'ils ne soufflent pas sur la terre jusqu'à ce que j'ai scellé les serviteurs de Dieu sur leur front. » Mais parce que le peuple est désobéissant, ingrat, impie, comme l'était Israël autrefois, le temps est prolongé afin que tous puissent entendre le dernier message de miséricorde proclamé à haute voix. L'œuvre du Seigneur a été entravée, le temps du scellement retardé. Beaucoup n'ont pas entendu la vérité, mais le Seigneur leur donnera l'occasion d'entendre et d'être fait convertis, et la grande œuvre de Dieu ira de l'avant. Manuscript Release, volume 15, 392.
Le 11 septembre 2001, le troisième ange est revenu, et le temps du scellement, qui avait été retardé depuis la rébellion de 1863, a recommencé. C'était l'arrivée de l'islam du troisième malheur, qui est aussi la septième trompette marquant le début du temps du scellement. Le temps du scellement a commencé avec l'arrivée du troisième ange le 22 octobre 1844, lorsque la septième trompette a commencé à sonner, mais cette trompette a été entravée et retardée.
« Et l'ange que je vis se tenant sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, et la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il commencera à sonner, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Apocalypse 10, 5, 7.
La voix du septième ange est la voix de l'ange de l'Apocalypse, chapitre 18, qui est descendu lorsque les grands bâtiments de la ville de New York ont été abattus.
« Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande puissance, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec force d'une voix puissante, disant « Babylone la grande est tombée. Elle est devenue une demeure de démons, un repère de tout esprit impur, et une cage de tout oiseau impur et odieux. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de son luxe. » Apocalypse 18, 1, 3.
La voix du puissant ange qui descend ordonne aux anges de retenir les quatre vents, représentés comme un cheval furieux, cherchant à se déchaîner et à semer la mort et la destruction sur son passage.
Les anges de Dieu exécutent ces ordres, retenant les vents de la terre, afin que les vents ne soufflent ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. On voit un ange puissant s'élever de l'Orient, ou du soleil levant. Cet ange, le plus puissant de tous, a dans sa main le sceau du Dieu vivant, ou de celui qui seul peut donner la vie, qui peut inscrire sur leur front la marque, l'inscription, de ceux à qui seront accordées l'immortalité et la vie éternelle. C'est la voix de cet ange suprême qui avait autorité pour ordonner aux quatre anges de tenir en échec les quatre vents jusqu'à ce que cette œuvre fût accomplie et jusqu'à ce qu'il donne le signal pour les relâcher. Testimony to Minister 450.
L'ange qui ordonne aux quatre anges de retenir les vents est l'ange du chapitre 18 de l'Apocalypse, qui illumine la terre de sa gloire. Et sa voix forte est la voix du septième ange.
Et quel tableau nous est donné au chapitre 7 de l'Apocalypse pour notre réflexion, notre consolation et notre encouragement. Les quatre anges sont chargés d'accomplir une œuvre sur la terre. Mais celui qui a racheté le monde en se donnant en rançon pour lui a un petit nombre d'élus. Qui ? Ceux qui gardent tous les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus.
L'attention de Jean fut attirée sur une autre scène. Et je vis un autre ange monté de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant. Apocalypse 7, 2. Qui est-ce ? L'ange de l'Alliance. Il vient du lever du soleil. Il est l'Orient d'en haut. Il est la lumière du monde. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1 et 4. C'est celui qu'Ésaïe décrit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9 et 6. Il s'écria, comme celui qui avait autorité sur les armées d'anges dans le ciel, auquel il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, en disant « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Apocalypse 7, 2, 3.
Ici, le divin et l'humain sont unis. L'ordre est donné aux quatre anges de retenir les quatre vents jusqu'à ce qu'ils reçoivent son appel. Lisez tout le chapitre. Le cri « Ne faites pas de mal » est prononcé par le Restaurateur, le Rédempteur.
Le jugement et la colère devaient être réprimés seulement pour un court laps de temps, jusqu'à ce qu'une certaine œuvre soit accomplie. Le message, le dernier message d'avertissement et de miséricorde, a été retardé dans l'accomplissement de son œuvre par l'amour égoïste de l'argent, l'amour égoïste du confort, et l'inaptitude de l'homme à accomplir une œuvre qui doit être faite. l'ange qui doit illuminer la terre de sa gloire a attendu des instruments humains à travers lesquels la lumière du ciel pourrait briller. Et il coopère ainsi pour donner, dans son importance sacrée et solennelle, le message qui doit décider du destin du monde. Manuscript Ulysses, tome 15, 200 d'entrée.
Le troisième ange, qui est le Christ, est aussi l'ange du scellement, arrivé le 22 octobre 1844. Mais, en raison de la désobéissance du peuple de Dieu, son œuvre de scellement des 144 000 a été retardée jusqu'au 11 septembre 2001. Puis l'islam du troisième malheur a abattu les grands immeubles de New York et le processus de scellement a commencé. À ce moment-là, les nations sont devenues furieuses, mais tenues en échec. La première voix du chapitre 18 de l'Apocalypse est la voix qui ordonne aux quatre anges de retenir pendant que le peuple de Dieu est scellé. Jésus illustre toujours la fin par le commencement. Et le 26 février 1993, l'islam du troisième malheur a fait exploser un camion-bombe dans le parking souterrain de la tour nord du World Trade Center. L'explosion a causé d'importants dégâts à l'édifice, tuant 6 personnes et en blessant plus d'un millier. Bien que l'attentat n'ait pas fait s'effondrer les tours, il a constitué un acte de terrorisme majeur sur le sol américain et a préfiguré les événements du 11 septembre 2001. Le temps du scellement a commencé le 11 septembre 2001, mais il comprenait un avertissement 8 ans plus tôt. L'attaque islamique contre Israël, le 7 octobre 2023, est un avertissement de la fin du temps du scellement. Les caractéristiques prophétiques du troisième malheur ont été établies en lien avec celles des deux premiers malheurs. Dans les versets d'ouverture du chapitre 9 de l'Apocalypse, le scellement des 144 000 est illustré. Nous aborderons ce sujet dans le prochain article.
Si de telles scènes doivent survenir, de tels jugements terribles sur un monde coupable, où sera le refuge du peuple de Dieu? Comment seront-ils abrités jusqu'à ce que l'indignation soit passée? J'en vois les éléments de la nature, tremblements de terre, tempêtes et conflits politiques, représentés comme étant retenus par quatre anges. Ces vents sont sous contrôle, jusqu'à ce que Dieu donne l'ordre de les relâcher. Là se trouve la sécurité de l'Église de Dieu. Les anges de Dieu exécutent ses ordres, retenant les vents de la terre, afin que les vents ne soufflent ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. On voit un ange puissant s'élever de l'Orient ou du lever du soleil. Ce plus puissant des anges a dans sa main le sceau du Dieu vivant, c'est-à-dire de celui qui seul peut donner la vie, qui peut inscrire sur les fronts la marque ou l'inscription de ceux à qui seront accordées l'immortalité, la vie éternelle. C'est la voix de ce plus grand des anges qui avait autorité pour ordonner aux quatre anges de tenir en échec les quatre vents jusqu'à ce que cette œuvre soit accomplie et jusqu'à ce qu'il donne l'ordre de les relâcher. Ceux qui vainquent le monde, la chair et le diable, seront les privilégiés qui recevront le sceau du Dieu vivant. Ceux dont les mains ne sont pas innocentes, dont les cœurs ne sont pas purs, n'auront pas le sceau du Dieu vivant. Ceux qui préméditent le péché et le commettent seront laissés de côté. Seuls ceux qui, dans leur attitude devant Dieu, se tiennent dans la position de ceux qui se repentent et confessent leur péché au grand jour des expiations antitypiques seront reconnus et marqués comme dignes de la protection de Dieu. Les noms de ceux qui, avec persévérance, scrutent, attendent et veillent pour l'apparition de leur Sauveur, plus ardemment et avec plus de désir que ceux qui attendent le matin, seront du nombre de ceux qui sont scellés. Ceux qui, tout en ayant toute la lumière de la vérité resplendissant sur leurs âmes, devraient avoir des œuvres en accord avec la foi qu'ils professent, mais sont séduits par le péché, érigent des idoles dans leur cœur, corrompent leurs âmes devant Dieu, et souillent ceux qui s'unissent à eux dans le péché, verront leur nom effacé du livre de vie, et seront laissés dans les ténèbres de minuit, n'ayant pas d'huile dans leur vase avec leur lampe. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Le scellement des serviteurs de Dieu est le même que celui qui fut montré à Ézéchiel en vision. Jean avait aussi été témoin de cette révélation des plus saisissantes. Il vit la mer et les flots rugir, et les cœurs des hommes défaillir de peur. Il contempla la terre ébranlée, et les montagnes emportées au milieu de la mer, ce qui se produit littéralement, ses eaux rugissant et troublées, et les montagnes tremblant sous leur gonflement. On lui montra des fléaux, la peste, la famine et la mort accomplissant leur terrible mission. Témoignage au ministre, 401 en 4.